Bonjour, vous êtes sur Couleur FM 97.1 dans l'émission Au fil des notes avec Régis. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Nicole Corti et Octavian Saunier. Leurs noms vous disent certainement quelque chose car ils seront en concert le vendredi 5 mai en l'église de Saint-Jean-Baptiste à Bourgoin-Jallieu. Alors, soyons francs avec les auditrices et les auditeurs, nous nous connaissons déjà. Nicole, j'ai chanté sous votre direction à Bourgoin-Jallieu en mars 2010 pour La Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach et également avec vous à Ambronay en septembre 2011 pour La Passion selon Saint-Matthieu du même Jean-Sébastien Bach. Et avec vous, Octavian, je participe au chœur de l'Université catholique de Lyon où vous nous accompagnez pour les répétitions, mais aussi pour les concerts, car vous êtes organiste. Le mieux, c'est que vous vous présentiez vous-même. Bonjour Nicole.
Bonjour Régis, bonjour à tous. Je m'appelle donc Nicole Corti, je suis chef de chœur, chef d'orchestre, actuellement directrice artistique de Spirito, qui est une nouvelle structure qui fait suite à la fusion des chœurs et solistes de Lyon que dirigeait Bernard Tétu et du chœur Britaine que j'ai moi-même dirigé. J'ai conduit la classe de direction de chœur au CNSM de Lyon jusqu'à décembre 2016, donc depuis très récemment. En amont, j'ai également dirigé la maîtrise de la cathédrale Notre-Dame de Paris entre 1993 et 2006. Et on peut dire qu'une autre période de ma vie, dans ma jeunesse, a été de créer une école un petit peu particulière, une école de musique à Irigny, près de Lyon, où le chant avait sa place fondamentale dans l'éducation musicale.
D'accord. Quel parcours. Et vous, Octavian ? Bonjour.
Bonjour Régis, merci beaucoup pour l'invitation en tout cas. Alors moi je suis organiste, donc l'organiste c'est celui qui joue de l'orgue tout simplement. Donc je suis titulaire de l'orgue de Saint-Potin à Lyon dans le 6e arrondissement. Je suis aussi professeur d'orgue au conservatoire de Rouen Agglomération depuis septembre, c'est tout frais. D'accord. Et puis je partage aussi mes activités avec l'accompagnement de chœur, donc comme vous le citiez au début, le chœur des facultés catholiques. D'accord. Tous les mardis soirs, et puis aussi le chœur de la primatiale Saint-Jean. D'accord. Sous la direction de Jean-François Duchamp, avec lequel voilà, on organise des tournées, des concerts. Je suis très, très heureux de faire ça. Et puis, du temps consacré aussi avec un duo piano-orgue que je fais avec Dimitri Papadopoulos, duo Mirabilis, des transcriptions, voilà, pas mal d'occupations musicales, mais souvent centrées sur l'orgue puisque c'est mon métier.
D'accord. Donc tous les deux avec des emplois du temps, j'imagine, extrêmement chargés. Et je vous remercie tous les deux d'avoir pu vous libérer pour participer à cette émission. Okay. Voilà, alors tout de suite d'emblée, je dirais que vous avez choisi des œuvres qui sont significatives pour vous. Nous allons écouter ce premier extrait qui est la messe pour deux orgues et chœur de Louis Vierne, le Kyrie, donc le premier mouvement. C'est M. Bouvard à l'orgue et le chœur Les Éléments dirigé par M. Suhubiette. Voilà, nous écoutons tout de suite et puis après nous ferons un petit commentaire.
Thank you.
Impressionnant.
Oui, ça, pour le moins.
Impressionnant. Pour un commentaire, moins. Peut-être, Nicole et Octavian.
C'est vraiment l'identité de, même de la solennité, de la, de, du magistral. Oui. C'est évidemment une messe écrite pour un grand lieu, hein, comme la cathédrale Notre-Dame de Paris, justement. C'est vraiment cette amplitude extraordinaire de la voix, du rapport à la puissance de l'orgue aussi,
bien sûr. Hein,
aux deux orgues, puisque le coeur, l'orgue de chœur accompagne le chœur en réponse au grand orgue. C'est vraiment pour les personnes qui aiment la musique religieuse, c'est un des sommets du XXe siècle.
D'accord.
Clairement.
Octavian.
Ah, moi, c'est une œuvre qui me touche tout particulièrement, puisque c'est une œuvre que j'ai chantée en fait en tant que choriste. D'accord. J'ai presque tout fait dedans. J'ai fait le grand orgue, l'orgue de chœur et le choriste. Quand j'étais étudiant à La Rochelle, avec ma maman, on faisait donc la pratique chorale. Mm-hmm. Et donc, il s'est trouvé qu'on a dû chanter cette messe. Donc, ça a été une vraie révélation pour moi. J'étais vraiment très heureux de faire ça. D'accord. Et en fait, ça s'est transformé un peu en rêve de gosse. Je me suis dit, vu que j'ai commencé à faire de l'orgue, je dis bon, j'espère qu'un jour je vais pouvoir accompagner cette messe. Et ça s'est réalisé en septembre dernier dans le cadre du festival Orgue Grand Jeu. Du coup, j'étais à l'orgue cette fois et voilà, c'était un de mes rêves qui s'est réalisé. Et je trouve vraiment, c'est comme disait Nicole, c'est clairement un monument. C'est musique comme ça du matin, bien moi, ça sûr. Me fait beaucoup plaisir.
Alors, on va changer complètement de genre, si je puis me permettre d'appeler cette musique un genre. Mmh. Je ne vous en dis pas plus. C'est un choix de Nicole. Il s'agit d'une œuvre de Luciano Berio, Sequenzas 3, et c'est Luisa Castellani, soprane, qui chante. C'est effectivement pour le moins surprenant, Nicole.
Oui,
c'est votre choix.
Oui, il s'agit d'une des 14 sequenzas de Luciano Berio, qui a pour 13 instruments et la voix, écrit des œuvres qui utilisent tous les possibles de l'expression, tant au plan de la tessiture des instruments qu'au plan des timbres qu'ils peuvent utiliser. Alors ici, c'est une œuvre qui a été écrite pour son épouse, qui était Cathy Berberian, une des chanteuses majeures du XXe siècle, en 65, donc relativement récent. J'ai choisi cette pièce parce que après avoir conduit mes études de direction d'orchestre, je suis rentrée au Conservatoire National Supérieur, dans la classe que j'ai moi-même conduite récemment, dans cette nouvelle classe de direction de chœur créée par Bernard Tétu, avec le nouveau Conservatoire National Supérieur de Lyon. Et je l'ai fait dans l'idée de la formation complémentaire de la direction d'orchestre. Et en fait, je me suis rendu compte, j'ai ressenti profondément que la voix contenait des multiples possibles qui pouvaient nous mener très 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 loin. Et je dois dire que mon chemin s'est plutôt orienté vers la direction de chœur.
D'accord. On en a un très bel exemple avec cet extrait musical, hein, effectivement. On revient maintenant à des choses beaucoup plus classiques, bien que j'ai horreur de ce terme. C'est le choix d'Octavian. C'est le premier chœur de La Passion selon saint Matthieu.
Oui, exactement.
Qui a été un élément déclenchant.
Oui, ça a été... en fait, je reviens encore à mes études à La Rochelle, quand j'ai passé mon prix d'orgue avec Didier Ledoux.
Oui.
Je devais jouer la grande passacaglie fugue de Bach pour orgue, c'était pour mon prix. Et je me souviens que quelques mois, quelques semaines avant l'examen, le prix, je ne comprenais pas cette musique. J'avais beaucoup de mal je faisais les notes, je faisais les rythmes, l'articulation, on en parlait beaucoup avec mon prof, mais j'avais du mal à saisir vraiment le sens musical, à conduire les choses. Et puis, il se trouve que mes parents étaient abonnés à Mezzo, la chaîne musicale, et puis un soir, je regarde la télé et je tombe sur La Passion selon saint Matthieu à la télévision. Oui. On était en pleine Semaine Sainte, et donc on passe La Passion selon saint Matthieu. Et j'écoute ce premier chœur, et c'est vraiment le coup porté. Vraiment, j'ai reçu, ça m'est tombé dessus.
On peut dire une révélation ?
Ah oui, complètement. Complètement, ouais. J'ai été complètement sidéré par cette musique. Complètement habité, en fait. On sent qu'il y a quelque chose... autre chose qu'humain derrière cette musique-là, en tout cas pour l'inspiration.
Oui.
Et en fait, j'ai dit, ok, voilà, la musique de Bach prend sa source là-dedans, c'est comme ça qu'il faut la voir, il y a une autre dimension, qu'il faut dépasser la dimension humaine. Et tout d'un coup, en fait, la musique de Bach est devenue un peu plus claire pour moi, et donc ça m'a permis de mieux
Bien
sentir la pièce que j'allais jouer
Bien
après
sûr.
Pour mon examen. Et puis du coup, je suis allé écouter l'autre passion, d'autres œuvres pour chœur et orchestre de Bach. Enfin voilà, j'ai commencé à dévorer un peu le répertoire vocal et orchestral de Bach. Donc ça a été une révélation, en tout cas vraiment un pivot, quelque chose qui m'a vraiment fait pivoter vers une vision de la musique de Bach qui m'a en tout cas beaucoup aidé.
Voilà. D'accord. Nous écoutons tout de suite ce premier chœur de La Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. C'est Philippe Hervaig et le Collegium Vocal. Voilà, donc une œuvre qui vous a marqué, Octavian.
Ah oui, oui. Bah, enfin, en tout cas, je pense que les auditrices et les auditeurs ont pu s'en rendre compte. C'est une musique quand même qui parle, c'est une musique qui fait quelque chose, qui ne peut pas laisser indifférent, clairement.
Et vous aussi, Nicole ?
Ah, évidemment, évidemment. Je crois que, d'abord, d'un point de vue général, Bach est notre maître à tous. Je pense que beaucoup de musiciens sont de cet avis. Il y a une dimension humaine et spirituelle évidente.
Bien sûr.
Je ne parle même pas du talent de compositeur qui est énorme, la multiplicité des plans, des plans sonores, la rencontre entre les lignes mélodiques et l'harmonie qui dit les états d'âme. Mmh. C'est vraiment une dramaturgie formidable, une architecture formidable et qui parle à l'être humain.
Bien sûr.
Jean-Sébastien Bach, ça reste vraiment une référence.
Incontournable. On dit Jean-Sébastien Bach, l'homme qui tutoyait Dieu.
Oui. Ah, pourquoi pas.
Je trouve l'image assez belle.
Bien sûr, en tout cas.
Même si ça ne reste qu'une image.
Oui, mais bon, c'est quand même la foi d'un homme qui parle avec sa compétence extrême.
Oui, absolument. Alors, on a parlé de vos fonctions passées, on a parlé des œuvres que vous aviez, qui vous avaient marqué dans l'origine de votre carrière. Est-ce qu'il y a, justement, dans vos carrières respectives, vous, Nicole, et vous, Octavian, des moments particuliers qui vous ont marqué au-delà de la simple sensibilité, je dirais, quelque chose qui a été pour vous un moment clé dans votre carrière?
Alors, évidemment, il y en a beaucoup. Des moments qu'on retient, qui ont laissé des traces, dont on nous dit aussi qu'ils ont compté, je pense, à des auditeurs, à des musiciens eux-mêmes.
Bien sûr.
Alors, il faut choisir. Pour ma part, je retiendrai, dans le cadre du temps que j'ai passé à Notre-Dame de Paris, je retiendrai deux concerts importants. D'abord, la symphonie de psaumes de Stravinsky que nous écouterons
en fin de parcours
tout à l'heure en fin d'émission, qui était donc l'occasion de faire entendre aussi le piano dans un lieu comme celui de Notre-Dame, où il n'était absolument pas coutume de le recevoir.
Ouais. C'était une première ou
C'était une première. Alors la première a été une Via Crucis de Liszt, avec piano, que j'ai souhaité avec piano, parce que je trouve que la force expressive est extrêmement importante avec piano, personnellement plus qu'avec orgue, excuse-moi Octavian.
Pardonnez.
Mais le jeu du jeu perlé du pianiste dans un lieu qui a une belle résonance comme celle de Notre-Dame a été, pour moi, ça a été aussi un des moments clés de la rencontre avec le public. Donc le piano aussi dans la symphonie de psaumes. Et puis, un autre moment important a été la création d'une messe monumentale, à l'image de la messe de Vienne, la messe de Deo Gratias de Jean-Pierre Leguet, pour deux orgues également, deux orgues et vent et percussions, et un grand chœur. Donc c'est vraiment une messe qui est à l'image de la monumentalité de la messe de Vienne. Ensuite, peut-être alors avec le chœur Britten, je peux dire qu'un des moments forts de ma carrière a été, parce que la musique contemporaine a beaucoup compté, et je dois dire que la découverte de la voix à laquelle je faisais allusion tout à l'heure avec Cathy Berberian a été un détonateur. C'est vraiment le projet des 31 créations, et sur un très beau texte de Florence Delay, nous avons commandé une œuvre à 31 compositeurs.
D'accord.
Et ce projet a été clos l'année dernière. Je pense que ce sont vraiment des moments clés qui font honneur à la musique d'aujourd'hui. Je crois que c'est vraiment extrêmement important.
Il en restera des traces, j'espère.
Bien sûr.
Tout est enregistré.
Absolument, presque.
Alors, une œuvre qui vous a particulièrement marqué, je crois, c'est de Edith Canacisi, le livre d'heures. On écoute un extrait qui s'appelle Matine, et c'est donc le chœur Britten.
Chœur de femmes.
Cœur de femme, absolument, le Cœur de femme bretonne, sous la direction de Nicole Corti. Et nous écoutons. Matine, du livre d'heures de Edith Canaccisi. Quelques mots.
Oui. Alors, il faut rendre hommage à cette compositrice merveilleuse qu'est Edith Canaccisi, académicienne, professeure de composition au Conservatoire régional de Paris, et qui a reçu l'année dernière le prix du président de la République comme compositrice.
D'accord.
C'est vraiment une personne extrêmement importante pour l'action des dames dans ce domaine et puis pour une musique qui est extrêmement personnelle qu'elle propose avec une connaissance de l'orchestre aussi merveilleuse, une très belle connaissance de la voix, très belle connaissance de l'orchestre. Je dois d'ailleurs signaler que l'ensemble Les Temps modernes était aussi de la partie, un très bel ensemble de musique contemporaine.
Je ne les ai pas cités et je prie Les Temps modernes de m'en excuser. Alors, à vous maintenant, Octavian, le moment fort ou les moments forts de votre carrière. Je crois le savoir, mais je vous laisse le dire.
C'est vrai, comme disait Nicole, on parle plutôt de moments forts au pluriel, puisque finalement c'est toute cette conjugaison de moments forts qui font ce qu'on est maintenant, qui passe par des concerts, des rencontres, des épisodes de la vie. Si j'avais à en retenir un qui est quand même essentiel dans mon parcours d'organiste, c'est l'année de résidence que j'ai effectuée au Japon, entre 2013 et 2014,
oui.
Puisqu'il donc, il existe un partenariat entre les deux CNSM de Paris et de Lyon, oui. Et une salle de concert à Sapporo, au Japon. Et donc, tous les ans, un organiste part en résidence une année entière là-bas.
D'accord.
Donc, j'étais le 16e. Donc, j'étais pas là. Mais la résidence était déjà bien installée depuis longtemps, donc oui. Bien rodée, bien huilée. Et dans le cas de cette résidence, donc, il y a beaucoup de concerts à effectuer à Sapporo, mais aussi ailleurs, à Tokyo, à Kyoto. Et puis, il y a un CD à réaliser. Il vous donne l'opportunité de réaliser un CD.
D'accord.
Alors, c'était pour moi la première expérience d'enregistrement de CD. Donc, oui. C'était quand même quelque chose d'assez impressionnant, en tout cas. Et puis, il a fallu bien forcément penser à un programme pour le CD. Et forcément, quand on enregistre un premier CD, on voudrait pouvoir enregistrer 5, 10 heures de musique parce qu'on a envie de tout enregistrer.
Bien sûr.
Et on peut pas. Donc, il a fallu faire un programme. Et puis, mon choix s'est porté vers Jean Guillou parce que c'est une musique que j'aime beaucoup en tant que compositeur. En tout cas, Jean Guillou, j'admire profondément.
Oui.
Et je suis tombé amoureux d'une œuvre de jeunesse qui s'appelle Sinfonietta. Et donc que j'ai mis au tout début de mon CD. Alors le Japon, pourquoi ça a été un parcours marquant, pourquoi ça a été un événement marquant dans mon parcours? Bah, tout simplement parce que c'était au Japon, donc j'étais très très loin de l'Europe, dans une civilisation et des modes de pensée très différents.
Oui, une culture complètement différente
et qui m'a fait beaucoup de bien, en fait. C'était aussi un moment de ma vie où j'avais envie, ou peut-être besoin, sans le savoir, de partir loin, de me couper un peu de tout et de tous. Et puis, en fait, c'était surtout l'occasion pour moi de vivre pleinement une carrière de musicien. Qu'est-ce que c'est vraiment une vie de musicien qui ne fait que des concerts, des CD, des promotions de concerts? Ça a été ça pendant un an. Alors après, oui. Bon, j'ai pas fait que ça non plus. Hein. Je me suis beaucoup baladé, j'ai fait beaucoup de randonnées, j'ai bien mangé aussi. Ça, je vous l'accorde. Et donc voilà. Et donc finalement, ce CD s'intitule Saga. Saga vraiment au sens, j'allais dire, médiéval islandais du terme, qui est là pour raconter un parcours épique, une histoire pleine de rebondissements à l'image de cette année passée au Japon finalement. Et donc voilà, j'ai choisi de faire découvrir la musique de Jean Guillou, qui est une musique qui est très, très colorée. C'est un personnage très à part finalement dans le monde de l'orgue, que je pense et j'espère on retiendra parce que vraiment c'est un monument. Et donc voilà, j'ai choisi de vous faire découvrir le premier mouvement de sa Sinfonietta pour orgue.
De Jean Guillou.
De Jean Guillou, donc enregistré sur l'orgue de la salle de Sapporo, là où j'étais en résidence.
Absolument. Voilà. Et c'est Octavian Saunier qui est à l'orgue.
Voilà, merci Aziz.
Et on écoute.
Thank you.
C'était donc Jean Guillou, Sinfonietta, le premier mouvement Allegretto, oui. Octavian Saunier à l'orgue, oui. Sur l'orgue de Sapporo, au Japon.
C'est ça. C'est un bonheur, en fait, à chaque fois de réécouter cette musique-là. Ce que j'aime beaucoup chez Guillou, en fait, c'est cette conjugaison de poésie. Il y a quelque chose de, toujours, de très, très sensuel dans sa musique. Et ce feu, en fait, ce côté bouillonnant, oui. Qu'il y a toujours présent dans sa musique.
Tout à fait, oui.
Qui cherche un peu à pulvériser l'orgue, en fait, vous voyez. Mmh. Ce mélange de couleurs, c'est un vrai bonheur, cette musique. Elle me fait beaucoup de bien. Et voilà.
Mais vous n'êtes pas le seul.
Oui, en tout cas, voilà.
Cela nous fait beaucoup de bien. Alors, nous allons revenir à l'actualité. Et le 5 mai prochain, vous êtes donc en concert tous les deux, Nicole Corti et Octavian Saunier, à Bourgoin-Jallieu, en l'église Saint-Jean-Baptiste, pour un concert orgue et voix de femmes. Alors, il y a deux questions en une. Bien sûr, vous allez nous parler un petit peu de ce concert, mais ce que j'aimerais savoir, c'est comment se construit un concert. Est-ce que c'est vos goûts personnels? Est-ce que vous répondez à une demande? Est-ce que c'est une commande particulière? Comment ça se passe?
Alors, dans le cas présent de ce programme, nous l'avons conçu à la demande d'un festival près de Toulouse qui souhaitait vraiment avoir un chœur de femmes et mettre en valeur l'orgue dont pourrait nous parler peut-être un peu Octavian, puisque
oui,
nous
oui,
avons réalisé ce concert ensemble.
Oui, c'était à Saint-Jacques-de-Muret, en fait, donc sur un orgue dit de transition, puisque c'est un orgue, en fait, qui se situe à la fin de l'époque classique française,
oui.
Et aux prémices, en fait, de ce que deviendra ensuite l'orgue romantique. Et donc, voilà, le concert a pris place dans cette église, sur cet orgue-là, qui finalement permettait de couvrir un répertoire assez large.
D'accord.
Voilà. Et le programme, finalement, est assez large, effectivement, puisqu'il va de Mendelssohn en passant par Schubert, en
oui,
allant à Poulenc, aux Litanies de la Vierge Noire, qui sont un repère formidable pour
oui.
les auditeurs.
Oui.
Et puis, qui aboutissent, de toute façon, à une œuvre contemporaine, enfin qui est maintenant qui a été écrite à la fin du XXe siècle de Maurice Ohana.
D'accord.
Qui était d'ailleurs le professeur de Edith Kenachizi.
D'accord.
Voilà, donc on couvre un
répertoire très vaste.
Voilà.
D'accord. Très bien. Alors, moi j'invite évidemment les auditrices et auditeurs à se rendre à ce concert hein, qui sera, je pense, un moment exceptionnel pour nous. Vous avez choisi pour illustrer ce concert, sans en dévoiler le contenu, une œuvre de Rob Hartz, qui est un compositeur de la fin du 19e, si j'ai bonne mémoire.
Mm-hmm.
Oui, on peut dire quand même début du XXe siècle.
Début du XXe aussi.
Il est alors, une des lignes directrices du projet de Spirito est, aux côtés de l'œuvre de Jean-Sébastien Bach, aux côtés de la création contemporaine, la valorisation des œuvres de qualité et qu'on appelle les œuvres rares. C'est-à-dire qu'au XXe siècle, on a des musiciens comme Repartz, comme Jean Krah, comme Joseph Hermant et Bonal, qui étaient connus. Dans le paysage musical à l'époque, mais qui n'ont pas consacré de temps à leur promotion. Et il se trouve que leurs œuvres extrêmement méritantes, de très belle qualité, sont tombées un peu dans l'oubli. Donc nous avons à cœur de leur rendre justice. Mmh. Et Repartz, qui est donc un auteur breton, mais qui a été par exemple directeur du Conservatoire de Strasbourg pendant une certaine année, donc qui est un pédagogue, a consacré sa vie à la musique et a beaucoup écrit pour chœur.
D'accord. Donc nous écoutons de...
Et pour orgue aussi.
Mais pour orgue aussi, bien
oui,
sûr.
Oui, bien sûr. Bien sûr. On n'oublie pas l'orgue chez Repartz, bien évidemment. Surtout, Donc nous écoutons Salut au Saut-Saint-Chrement, deux extraits. C'est Jean Bizot qui est à l'orgue et c'est toujours le chœur Britten dirigé par Nicole Corti. Voilà, repart dans sa magnificence, je dirais. Magnifique, vraiment.
Oui, c'est
inconnu, c'est un... et magnifique.
Oui, c'est un auteur remarquable. Ouais. Et dans le programme que nous allons donner avec Octavian, dans un autre ordre musical, nous avons Joseph Herman Bonal, ce musicien extrêmement réputé en son temps,
oui.
Qui était inscrit dans le paysage musical, mais qui est tombé dans l'oubli, qui serait tombé dans l'oubli si sa propre fille n'avait pas tout mis en œuvre pour que sa musique soit jouée, et elle l'est de plus en plus.
D'accord.
Alors, nous avions une œuvre magnifique, L'étoile du soir, pour chœur de femmes et piano, et même une version avec orchestre, et nous avons proposé à Octavian de la transcrire, je ne sais pas.
D'accord.
C'est ça, de réaliser une transcription pour orgue de cette œuvre. Et en fait, c'est une transcription qui a été à la fois difficile et facile. Facile parce que c'est un langage qui est tellement coloré que finalement l'orgue propose beaucoup de choses, donc c'était ça allait de soi. Difficile parce qu'en fait la partie de piano était souvent écrite sur 3 ou 4 portées, donc il faut réécrire ça pour que ça tombe sous les doigts, c'était pas évident. Mais en tout cas voilà, ça sonne très très bien, et Nicole a eu un très 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 bonne idée, très bon choix de proposer ça au public.
D'accord.
Très belle œuvre.
Alors il nous reste encore un petit peu de temps, on est toujours sur Couleur FM avec Nicole Corti et Octavian Saunier. Il nous reste assez peu de temps pour parler de vos projets, et puis on essayera quand même d'écouter un extrait de la Symphonie des Psaumes en finale, parce que c'est une œuvre à laquelle vous tenez l'un et l'autre, je crois, mais on ne pourra pas écouter peut-être la totalité de l'extrait que nous avons choisi, parce qu'on est un petit peu limité par le temps. Voilà, vos projets en quelques mots.
Nicole.
Alors, il y en a beaucoup. D'ailleurs, avant ce concert, nous avons beaucoup de musique à réaliser. Ce soir, par exemple, à Mélan, à l'Hexagone, nous faisons une création qui est à la limite de la science et de la musique, autour du neutrino, sur une musique de Samuel Sighicelli, avec un spectacle visuel magnifique et des comédiens hors plan, puisque parmi eux, nous avons Jacques Bonafé. Dès la semaine prochaine, nous mettons en œuvre un programme intitulé Requiem Imaginaire avec Jean-François Zigel comme pianiste accompagnateur.
D'accord.
C'est-à-dire qu'il a imaginé finalement la cérémonie de son propre enterrement. nous avons choisi dans les œuvres majeures du répertoire les moments flash qui nous permettent comme ça de faire comme si ces musiques s'inscrivaient dans une pensée un petit peu dans un imaginaire un petit peu... large, on va dire.
D'accord. Et vous, Octavian ?
Moi, très brièvement, beaucoup de projets avec cœur, en fait, surtout, puisque c'est... je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais c'est une formation que j'admire beaucoup, beaucoup, pour en avoir fait, avoir pris des cours de chant, avoir fait du cœur. Pour moi, c'est la formation reine avec le quatuor à cordes dans la musique qui vraiment m'émeut beaucoup. Donc, je fais beaucoup de concerts avec cœur, notamment avec vous, Régis. On va faire un concert à Saint-Potin le 30 mai.
Tout à fait.
Un concert avec Nicole, bien évidemment. Et pour le 30 mai, justement, d'ailleurs, j'ai encore une nouvelle transcription à réaliser, puisqu'on va réaliser la cantate Saint-Jean Damasène de Sergueï Taneïev.
D'accord.
Et donc, il y aura une transcription à réaliser avec orgue, orchestre à cordes, quelques vents et chœur. Donc, ça va être un joli travail à réaliser. Et puis voilà, toujours les occupations d'organiste, de professeur d'orgue et de concert ici et là, à Berlin, à Barcelone.
On écoute juste le tout début de la Symphonie des Psaumes de Stravinsky. Voilà, c'était le tout début de la Symphonie des Psaumes, juste un très court extrait. Malheureusement, on aurait dû en écouter beaucoup plus, et ça mérite d'être écouté.
Ça donne envie, en tout cas. Ouais,
et ça fait très envie.
Il faut.
Voilà, je vous remercie tous les deux pour le temps très précieux que vous nous avez consacré aujourd'hui.
Non, merci à vous.
Merci à vous.
Je voudrais juste terminer par les annonces habituelles. Donc, au Conservatoire Hector Bellioz, beaucoup de choses qui se passent. Poésie et musique, le 9 avril. Certificat de fin d'études, concert d'élèves le 11 avril, projet musique à l'école, projet Musique à l'école les 13 et 14 avril. Au Théâtre du Vélin, donc, évidemment, le concert du 5 mai, mais aussi des concerts jeunes publics. À l'Auditorium de Lyon, la Symphonie Pastorale, et puis un récital Yo-Yo Ma et Catherine Stott. À l'Opéra de Lyon, Tristan et Isolde, Mozart également. Enfin voilà, allez voir les sites, internet, vous aurez tous les renseignements. Merci encore, merci à William qui était à la technique aujourd'hui.
Merci, merci Régis, merci beaucoup.